Une saison au théâtre, bonjour à toutes et bonjour à tous. Ce qui structure le théâtre contemporain, nous en parlons chaque semaine. C'est en vrac, la lumière, la scénographie, le jeu de l'acteur, le public ou encore le costume. Mais il y a aussi, dans les replis de son édification, des serpents de mer de nature autre qui se repèrent lorsqu'ils redressent la tête pour apparaître au fil des représentations. L'un de ces tropismes est l'histoire avec un grand H et plus particulièrement la Révolution française. Cette réactivation de 1789 à travers certaines de ces grandes figures héroïques est-elle, pour le théâtre, le moyen de se réformer ? Nous ouvrons aujourd'hui le chapitre Révolution d'une saison au théâtre en encyclopédie en mouvement d'un art qui ne transige pas avec ses idéaux. Nous sommes ensemble jusqu'à 16h. Bienvenue.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier sur le chemin de l'école. Je chantais à pleine voix des romances sans paroles, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur.
Bonjour Philippe Bourdin.
Bonjour.
Vous êtes professeur à l'université Clermont-Auvergne et auteur de plusieurs ouvrages sur la Révolution française, dont celui qui nous intéresse aujourd'hui et qui s'intitule « Aux origines du théâtre patriotique ». Il est paru aux éditions CNRS. Bonjour Baptiste Amann.
Bonjour.
Vous êtes auteur, metteur en scène et on peut voir actuellement au Théâtre de la Bastille à Paris, dans le cadre du Festival d'automne, le second volet du triptyque que vous avez conçu. Celui-ci s'appelle « Des territoires d'une prison l'autre ». Le premier s'appelait « Des territoires », entre parenthèses, « Nous sifflerons la Marseillaise ». Et dans le second volet, vous convoquez la figure de Louise Michel après avoir ressuscité celle de Condorcet dans le premier épisode. Bien avant que vous soyez né, Baptiste Amann, certains spectateurs s'en souviennent encore, Ariane Mouchkine en 1970 proposait le mythique 1789. Et puis en 2009, Sylvain Creusevaux créait Notre Terreur qui déployait sur scène les héros Robespierre, Danton, Saint-Just ou encore Camille Desmoulins. Enfin en 2015, Joël Pommerat à son tour créait l'événement avec Saïra Fin-Louis, représentation en immersion au cœur de la foule et du peuple, les deux étant prêts à couper la tête du roi. D'où ma première question adressée à l'un et à l'autre. Est-ce qu'il y aurait une sorte d'inconscient collectif qui pousse aujourd'hui les artistes français vers cette exhumation de la Révolution française ? Qu'en pensez-vous, Philippe Bourdin ?
Je pense que ça n'est pas un mouvement totalement actuel. Depuis que la Révolution a eu lieu et que certains se sont demandé si elle était vraiment finie, il y a eu une exhumation assez continue des événements et des hommes qui ont fait cette décennie 1789-1799, pendant tout le 19e siècle, au 20e siècle, que ce soit en peinture, que ce soit au théâtre. Si l'on regarde au-delà même des artistes, l'intérêt des Français très avides d'histoire pour les grandes périodes qui ont fait l'histoire de France, la Révolution arrive parmi les intérêts majeurs aux côtés des guerres de religion et aux côtés des deux guerres mondiales. Mais peut-être parce que ces moments-là sont révélateurs aussi des limites de nos sociétés, de leurs limites politiques, économiques, sociales et culturelles. Ce sont aussi des champs du possible pour bien des individus qui basculent dans un camp ou dans l'autre. Donc inévitablement, ça nourrit la réflexion philosophique et la réflexion théâtrale.
Baptiste Amann, qu'est-ce qui vous a poussé dans des spectacles où finalement vous auriez pu vous passer de les ressusciter ? Qu'est-ce qui vous a poussé à convoquer les figures de Condorcet dans un premier temps, puis de Louise Michel dans un second temps?
Mais je crois qu'effectivement, il y a un inconscient comme ça qui agit. Peut-être là, d'un point de vue un peu plus générationnel, on va dire, quand on a moins de recul sur ce qui nous anime. après. Moi, quand je sortais de l'école, donc je suis sorti en 2007, et avec tout de suite cette envie d'essayer de fabriquer des spectacles, il y avait bon les débats sur l'identité nationale, enfin tout ça, et on sent que quand même la Révolution française incarne un point de départ sur une identité française et sur laquelle on revient en permanence, alors avec des points de vue différents, avec des conflits idéologiques. Et je crois qu'au moment où moi je commençais une trilogie qui est plus sur la famille que sur la Révolution, et me posant des questions d'héritage et de mémoire, forcément, j'ai eu envie d'élargir un peu les problématiques, qu'elles soient intimes ou sociales, avec la dimension historique.
Est-ce que le rapport entre ces spectacles et le ton de leur représentation est un rapport à étudier? Par exemple, quand Ariane Mnouchkine crée 1789, elle le fait en 1970, soit 2 ans après mai 68. On imagine que le souvenir de mai 68 est passé par le plateau du Théâtre du Soleil. Quand Joël Pommera crée Ça ira, fin de Louis, c'est en 2015. Et en 2016, il y a Nuit debout. Et là encore, le parallèle peut s'établir. Est-ce que ce rapport, il est avéré? Est-ce qu'il a une validité, selon vous, Philippe Bourdin?
Oui, alors peut-être plusieurs choses. D'abord, vous avez cité au moins 3 spectacles, celui de Mnouchkine, celui de Creusevaux, celui de Pommera, qui sont tous issus de lectures très abondantes sur l'historiographie de la Révolution française. Ça, c'est un point commun, hein. Il y a même des cours qui sont donnés aux acteurs de Mnouchkine sur la Révolution française. Ensuite, il est évident que ces spectacles sont totalement inscrits dans la période où ils sont produits. Prenons celui de Mnouchkine, il y a une réhabilitation des sections parisiennes dans son spectacle, et c'est à mettre en rapport, bien évidemment, avec le mouvement populaire et étudiant que l'on a connu en mai 68. Ça n'est pas les gouvernants qui l'intéressent, c'est bien cette démocratie qu'elle pense être directe, et qui ne l'est pas totalement si on étudie l'histoire des sections, mais c'est autre chose, hein, qu'elle met en scène. Chez Joël Pommera, je pense que la réflexion est totalement autre, peut-être pas tant liée à Nuit debout qu'à la question qui nous a taraudés et nous taraude encore sur la forme du pouvoir politique, sa représentativité, sur les déceptions politiques aussi, sur le rapport des députés à leurs électeurs, toutes questions qui sont très sensibles dans son spectacle.
En même temps, le parallèle pouvait se faire dans la façon dont Joël Pommera décide de montrer aux spectateurs comment se créent les idées, comment elles s'affrontent, comment elles s'échangent, dans une perspective assez horizontale, ce qui a été le cas quelques mois plus tard, dans ce mouvement Nuit debout qui s'est tenu place de la République et un peu partout en France.
Oui, j'ai pas trouvé que c'était si horizontal que ça, parce que
chez Pommera, vous voulez dire, on
chez
parle
Pommera,
de ça.
Il y a aussi le rapport entre le député et ses électeurs. Le député ne comprenant pas ses électeurs, les électeurs ne comprenant pas les contraintes du député. Il y a les rapports entre les députés eux-mêmes. Enfin, il me semble que le spectacle est assez complexe et donne beaucoup moins de réponses. Il ne veut pas donner de réponses, d'ailleurs, que le spectacle de Mnouchkine.
Est-ce que vous avez fait vous-même, Baptiste Hamann, un travail d'historiographe en mettant en scène ces figures de Condorcet et Louise Michel? Est-ce que vous aviez le désir d'être fidèle à ce qu'elles ont été?
Au départ, forcément, quand on utilise une archive, on essaye d'être un peu rigoureux. Alors forcément, ça s'accompagne d'énormément de lectures et puis d'approfondissements sur ce sujet-là. Après, moi, je me suis rendu compte que quand même, j'aurais jamais la dimension requise pour être tout à fait dans la ligne de cette rigueur. Et surtout, ce qui m'intéressait, c'était de mettre en scène finalement ce que ça m'avait fait, moi, de rencontrer ces figures historiques.
Mais comment vous les avez rencontrées?
Avant même de vouloir parler de la Révolution française dans le premier volet, j'ai d'abord redécouvert la figure de Condorcet par la bibliographie qu'en a fait le couple Badinter. Mais c'est parti d'une anecdote, c'est-à-dire que je cherchais donc à créer un anachronisme, donc il me fallait un principe dramaturgique, et je voulais que des os soient exhumés de la terre du jardin du pavillon de banlieue dans lequel se passe la trilogie, et que ces os appartiennent à une figure historique. Et du coup, je cherchais comme ça, un peu arbitrairement, une figure dont le corps n'aurait jamais été retrouvé. Et je suis tombé du coup sur l'histoire de Condorcet, qui a été jetée à la fosse commune de Bourg-la-Reine. Et du coup, j'ai imaginé que ça pouvait partir de lui. Et puis, plus je grattais, plus je découvrais quelqu'un qui était présenté. Il y a peut-être une culture un peu inconsciente jacobine en France qui pourrait présenter les Girondins comme la version pas la plus éclatante de la Révolution. En tout cas, j'en sais rien. Dans certains cercles idéologiques, ça devient tout de suite éruptif.
Et les Girondins étaient jacobins? Ouais. Ce sont les principaux fondateurs du Club des Jacobins. Ce sont eux qui ont mis en place quantité de succursales en province. Il y a une confusion totale en France dans l'emploi de ce mot jacobin, l'on confond avec centralisme, centralisation, que sais-je encore, alors qu'il a existé des fédérations provinciales de clubs jacobins, que tout n'était pas centralisé à Paris, qu'il a existé des clubs jacobins à l'étranger qui étaient libres de leurs actions. Bref, pour le coup, il faudrait que beaucoup se repenchent un peu sur la réalité historique pour éviter d'employer les termes n'importe comment. Girondins comme Montagnards ont tous été jacobins.
Joël Pommerat, vu par des historiens, a été plus ou moins étiqueté comme un traître par rapport à la véracité des faits qui s'étaient passés. Le rapport de l'artiste à l'histoire, il relève aussi de la subjectivité de l'artiste.
Moi, je ne vais pas au théâtre pour voir de la reconstitution historique ou pour voter éventuellement sur la mort du roi, comme ça s'est fait dans quelques spectacles qui, par ailleurs, étaient très éloignés de la réalité historique eux aussi. Ça ne m'intéresse pas. Je pense d'ailleurs qu'aucun des artistes dont nous avons parlé ne s'est essayé à la reconstitution historique. C'est un parti pris, nourri de nombreuses lectures, de nombreuses réflexions, et qui permettait dans chacun des cas, des improvisations.
Après, il y a un rapport inconscient aux mots, et par exemple, moi, derrière Jacobin, je mets un rapport à une certaine forme de radicalité, on va dire. Et là, ce que j'ai découvert chez Condorcet, présenté par Badinter, ça mesure, en tout cas, quand il écrit contre la nouvelle constitution des Hautes-Seychelles, une lettre aux citoyens, où quelque part c'est un appel à la mesure, j'ai trouvé que cette mesure-là était transgressive et subversive. Et c'était la première fois que je trouvais une incarnation avec l'analogie Badinter. Forcément, je me souvenais de ses prises de parti contre la peine de mort, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on ne transige pas avec une certaine forme de mesure. Alors, elle n'est jamais morale quand elle est incarnée. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que d'un coup, j'ai pu voir une incarnation. Et à ce moment-là, moi, ça crée un rapport éminemment subjectif et qui me donne envie de faire émerger et de mettre en résonance avec donc des problématiques. C'est-à-dire que l'acteur qui jouait tout à coup Condorcet jouait à la période contemporaine un petit politique écrasé par son supérieur et qui était lui incapable de prendre un engagement fort dès que la situation devenait pressurisante. Et donc ça m'intéressait de voir comment parfois les plus résistants sont pas les plus radicaux en termes de valeurs. Et ça, j'aimais bien mettre ça en parallèle.
France Culture.
Une saison au théâtre.
Joël Gaillot.
C'est le moment, puisque vous parlez de radicalité, Baptiste Amann, de vous faire entendre dans une saison en théâtre le metteur en scène Antoine Vitesse, qui fait le lien entre révolution, théâtre et jeunesse, à sa manière.
On a envie, évidemment, quand on commence, on a envie, peut-être plus simplement, plus banalement, d'être insolent. Le théâtre est toujours polémique. C'est une activité polémique, c'est-à-dire on fait du théâtre contre d'autres. Par exemple, on monte une pièce classique parce que on l'a déjà vue beaucoup et on a envie d'en dire autre chose. Et on poursuit des adversaires parfois imaginaires ou lointains ou hors d'atteinte, des adversaires hors d'atteinte, parce qu'on a envie de leur river leurs clous à ces adversaires hors d'atteinte. C'est un travail extrêmement polémique, le théâtre, plus polémique que beaucoup d'autres. Mais de là à dire qu'il y a au centre de l'activité théâtrale une sorte de germe révolutionnaire.
Qu'est-ce que vous en pensez, vous, Baptiste Amann ? Est-ce qu'il y a un germe révolutionnaire au centre de l'activité théâtrale ? Parce qu'Antoine Vitesse, effectivement, est très sceptique sur la question.
Pour moi, ce qui va m'intéresser, c'est plutôt l'état d'esprit révolutionnaire que la révolution comme un état de fait. Pour moi, c'est l'espoir jeté dans un monde plus équilibré et plus juste. Du coup, j'ai la sensation que cet état d'esprit-là, il faut recontextualiser aussi que c'est une aventure de groupe. C'est-à-dire que j'ai rencontré à l'école donc un groupe d'acteurs. Mais à la sortie de cette école, on a décidé ensemble d'imaginer des moyens de faire du théâtre de façon la plus horizontale possible. nous, on était complètement dans les standards de notre génération, c'est-à-dire qu'on revoyait l'émergence de collectifs ou de gens qui imaginaient pouvoir faire un théâtre sans cette figure tutélaire du metteur en scène. Et on se rend compte que la réalité est bien plus complexe, qu'effectivement, on parle beaucoup de plateformes, d'horizontalité, tout ça, et que, évidemment, à un moment donné ou à un autre, il y a quelqu'un qui prend ce poste-là, qui fait un peu autorité sur le groupe. Du coup, on a essayé comme ça d'inventer un principe de metteur en scène tournant où le rôle de celui qui fait autorité est un jeu de rôle. Alors, s'il y a un germe révolutionnaire pour essayer de répondre à la question, j'en sais rien, mais par contre, cette espérance jetée dans une façon de fabriquer un monde, je parle pas de la société, mais un monde, c'est-à-dire une entité entre des personnes qui essayent ensemble de créer des liens et des rapports plus équilibrés et plus justes, moi, m'intéresse et m'active. Oui.
Moi, il me semble, je ne sais pas ce que vous en pensez, Philippe Bourdin, que la Révolution française a beaucoup de mal à s'énoncer dans le texte de théâtre en tant que tel, qu'il a fallu passer par des auteurs comme Büchner, avec La mort de Danton, pour raconter, et même pas raconter d'ailleurs, pour essayer de raisonner avec ce qu'a pu être la Révolution française, et qu'il faut justement que ce soit des écritures collectives, des écritures de plateau qui prennent ça en charge, pour qu'enfin elles puissent s'énoncer sur un plateau de théâtre. Dans le livre « Aux origines du théâtre patriotique », vous racontez ce qu'a fait la Révolution française au théâtre, mais dans toutes ses composantes, hein, de manière logistique, de manière sur la direction d'acteurs, sur le jeu, sur l'agencement des salles à Paris et ailleurs. Pourquoi est-ce qu'elle est si difficile, la Révolution française? Est-ce qu'il est si difficile de la faire rentrer dans le texte de théâtre?
Parce que le présent résiste.
Oui. Mais elle n'est plus au présent.
Parce qu'il est plus facile de parler du passé et d'imaginer l'avenir. Celle dont je parle est très présente. Elle est contemporaine des événements. La Révolution, telle qu'on veut la porter sur scène dans environ 500 pièces du théâtre patriotique, qui sont minoritaires dans l'ensemble du répertoire joué pendant la décennie, est une révolution qui peut tendre vers la propagande, mais qui essaye de porter sur scène une histoire immédiate, ce qui est très neuf dans le théâtre aussi. Les réflexions sur la valeur de l'histoire comme enseignement moral ont été particulièrement développés par Voltaire au mi-temps du XVIIIe siècle, réflexion reprise par ses successeurs, par Louis-Sébastien Mercier par exemple ensuite, mais l'histoire dont il parlait était une histoire ancienne, une histoire moderne, mais pas une histoire immédiate. Et c'est bien la Révolution qui impose celle-ci, et dès la prise de la Bastille, dès l'année 89 et dans les premiers mois de 1790, on voit des auteurs s'intitulant vainqueurs de la Bastille, à plus ou moins juste titre, hein, selon les individus d'ailleurs, et qui portent sur scène l'événement et qui proposent d'une certaine manière aux spectateurs qui figurent la foule qui a pris la Bastille, de monter sur scène pour reprendre la forteresse, qui mettent en scène des acteurs réels de la prise de la Bastille, l'horloger Humbert, le grenadier Arnay par exemple, ces mêmes personnes étant invitées dans la salle. Il y a une confusion qui se crée entre salle et scène dans un moment où, de toute façon, les deux espaces ne sont pas protégés comme ils le sont aujourd'hui. Il y a un échange permanent entre les spectateurs et les artistes à l'époque.
Je voudrais vous faire écouter la voix de quelqu'un qui, pour le coup, a bien connu les textes de Büchner et pas que Büchner, tout le répertoire allemand en règle générale, c'est Bernard Sobel qui s'exprime sur la difficulté que peut-être la France a représenté cette Révolution française.
On ne peut pas aborder innocemment ce problème en France si on ne pose pas le rapport des Français à leur propre histoire. Ça, c'est déjà un problème qui me paraît très important. Je veux dire, si on prend par exemple un homme comme Pouchkine, eh ben, il y a Boris Godounov, hein, comme ça. Si on prend Schiller, il y a des œuvres de l'histoire de leur pays. Et il semble que nos grands écrivains, Corneille.
Corneille, oui.
Hein, non, mais je suis bien d'accord. Oui, mais Corneille, c'est au moment de la Fronde. C'est au moment où va se faire le silence sur l'histoire en France. Au moment où il y a une grande boucherie en France dont le théâtre, d'ailleurs, ne témoignera que très rarement ou très difficilement. Le sang qui a été répandu sous la Révolution française, c'est rien à côté de ce qui s'est passé pendant la Fronde. Or, rien ne témoigne de ça dans notre histoire, je veux dire dans notre histoire littéraire. Alors, c'est déjà la littérature par rapport à l'histoire, les Français par rapport à l'histoire, qui mettent en cause toutes les questions que vous posez sur la théâtralité de la Révolution. Moi, je pense que ce qui me frappe beaucoup, c'est est-ce qu'un personnage, un actant de la Révolution est un personnage de théâtre?
Et dans cette même émission de 1989, Bernard Sobel, après avoir posé cette question, est-ce qu'un actant de la Révolution est un personnage de théâtre, ajoute « Le roi, oui, il peut être un personnage de théâtre ». C'est compliqué de faire entrer le peuple la foule. Sur la scène du théâtre, ce peuple et cette foule de 1789 ou plus tard de la Commune comme étant les héros contemporains.
Ça n'a pas été compliqué pendant la période de la Révolution elle-même, hein, puisque ça a quand même été l'un des moteurs du théâtre patriotique. C'est celui-ci que veut relancer fin 19e siècle, début 20e, Romain Rolland, avec toute sa série de pièces sur l'histoire de la Révolution française. Là encore, il pense faire venir les foules sur scène. C'est la Révolution française qui invente le théâtre par et pour le peuple. Donc cet effort est bien fait. Peut-être aussi parce qu'à ce moment-là, on n'imagine pas l'histoire comme on l'imaginait sous l'Ancien Régime, portée par un homme, le roi de France en l'occurrence, mais portée par une société tout entière. Je me demande d'ailleurs si cette réflexion historique ne mériterait pas d'être poursuivie. Parce qu'effectivement, dans les titres que vous me citez, et la pièce de Büchner en particulier, hein, c'est un personnage qui est mis à l'honneur, à partir duquel...
Danton.
Danton en l'occurrence, hein, pleine de réflexions peut venir se greffer. Mais si Danton est mis à l'honneur dans un moment très particulier de l'histoire européenne, où l'on parle beaucoup de revanche aussi, hein, où le patriotisme est exalté, où Danton est choisi comme emblématique de la Troisième République, en France. Donc il y a un contexte qui favorise le personnage. De ce point de vue-là, Creusevaux était un peu en rupture avec cette tradition, en choisissant de mettre en avant davantage Robespierre.
Et Saint-Just, et Camille Desmoulins.
Oui, en fait, la moitié de la pièce, c'est sur Robespierre. Toute la deuxième partie de la pièce, c'est Robespierre. Et les autres mis en valeur de manière assez intéressante, d'ailleurs, parce que dans leur contradiction, parce que dans leur bagarre, ce sont les membres du comité de salut public. En l'occurrence.
Ariane Mouchkine, Baptiste Amann, dit que le théâtre et l'histoire ont un lien profond et que si la Révolution française a à ce point intéressé le Théâtre du Soleil, c'est parce que c'est une révolution, une guerre civile, une guerre intérieure. Et que pour elle, la guerre civile, c'est ce qui concerne la guerre des familles, la guerre des clans. Vous avez plus ou moins dit ça tout à l'heure quand vous avez présenté le spectacle Nos Territoires. Il s'agit d'une famille, d'une fratrie qui est en conflit, à l'intérieur de laquelle vous faites advenir ces figures venues du passé. Est-ce que vous rejoignez Ariane Mouchkine sur cette idée-là, qu'au fondement du théâtre, il y aurait l'idée de la guerre civile ?
Je démarre la trilogie des territoires par la mort symbolique des parents, c'est-à-dire que j'annule la génération du dessus. Il est dit qu'ils sont morts la même nuit, ça dure en 4 lignes. On est d'emblée avec une génération qui serait comme les pantins dont on a coupé le fil et qui se demande comment se redresser et se mettre debout. C'est pour ça que c'est... Je vais essayer de retisser au cours de ces 3 volets l'histoire qu'ils ont en commun, c'est-à-dire leur filiation, et dans le parallèle, de retisser comme ça un peu par épisode révolutionnaire une approche, une version de qu'est-ce qui constitue un état d'esprit révolutionnaire, mais plutôt, j'insiste là-dessus, sur le rapport à l'engagement. Alors sur la notion de guerre civile, effectivement, ça ne se fait pas sans conflit, ce retissage, c'est-à-dire sur quoi on se met d'accord quand on doit se mettre d'accord sur une mémoire commune ? Comment on ne peut pas se départir de soi ? Forcément, jette les êtres les uns contre les autres. Et c'est peut-être dans cette collision-là que se trouve une réalité objective, j'en sais rien. Mais en tout cas, pour moi, la première scène du premier volet, par exemple, c'est une opposition très anecdotique sur 2 frères qui ne sont pas d'accord sur le trajet le plus court pour aller chercher les pizzas. Il se trouve que cette conversation, elle pourrait être... très banale, mais elle est dans le contexte de la préparation d'un enterrement. Et donc ces choses-là, c'est tout à coup, on devient très sensible et très prompt à l'agressivité, dès lors qu'il y a ce phénomène de pressurisation, qui tout à coup, d'une ligne de démarcation assez faible, ça peut devenir une ligne de front. Et donc, à mon sens, la guerre civile en tant que guerre faite de semblable à semblable, qui n'est pas une guerre d'autorité ou une guerre de manipulation ou stratégique, j'ai l'impression que c'est au cœur de nos organisations les plus intimes et qu'effectivement, en tout cas, le théâtre que je pratique n'a pas peur du conflit, au contraire, mais comme base constructive. C'est-à-dire que c'est pas un conflit qui viendrait dire on va faire table rase, on est en colère contre nos aînés. C'est plutôt, moi, ce qui m'intéresse dans cette colère-là, c'est qu'elle est la tentative un peu désespérée de reconstruire des modèles qui se seraient écroulés comme des statues dont on n'aurait que des restes épars de pierre et de les rassembler. Effectivement, le dessin est mal contourné. Effectivement, les statues qui se redressent sont floues et nous-mêmes, on ne sait pas les nommer. Nous-mêmes, on n'a pas les bons mots, mais... Pour moi, quelque part, cette confusion-là de notre rapport à l'histoire, je la juge pas. En tout cas, je me rends compte, parce qu'on parle de confusion sur les termes et tout ça, mais Je donne beaucoup d'ateliers en lycée et tout ça. Et par exemple, l'année dernière, quand la date de la Révolution française à un lycée technique à Bordeaux, et qu'on me dit 1970, je me dis, ok, d'accord, alors il y a cette confusion-là, si on la juge d'un point de vue moral, on est mort. Enfin, c'est-à-dire qu'on va sans cesse considérer les générations qui arrivent comme encore plus abruties que celles qu'on incarne nous-mêmes, et nous-mêmes, on se sent déjà abrutis par rapport à celle qui est au-dessus de nous. Donc comment, voilà, ces pantins-là désarticulés que nous sommes arrivent à retisser des liens qui sont peut-être pas les bons, mais qui vont écrire une histoire aussi pour les autres. Et c'est une transformation. Et tout à l'heure, on parlait de la représentation sur scène des révolutionnaires. Est-ce que le roi peut être une figure théâtrale alors que le peuple est difficile à faire rentrer? Mais j'ai l'impression que la représentation de l'histoire pose la même question que la représentation du réel. À partir du moment où on fait théâtre de faits, qu'ils soient historiques ou actuels, on se pose la question de la représentation. Et cette question-là, elle est terrible parce que nous, elle nous met dans un gouffre où tout à coup, on se dit « mais pourquoi on ne se satisfait pas du réel ?» Et ça, par exemple, dans le rapport à l'archive, tout à coup, c'est très écrasant parce qu'on se dit « mais on ne saura jamais raconter objectivement une histoire ». Comme on ne saura jamais raconter sa propre histoire. De toute façon, arriver sur scène, c'est commettre un acte de délit sur le réel. Et cette transformation-là, il faut espérer qu'elle soit à la mesure de tous les actes délinquants qui sont commis par la création, mais de la plante qui sort par effraction de la terre à quelqu'un qui opère une transgression sur un fait historique avéré. Je crois que cette transformation-là, elle est constructive.
J'aime bien cette idée de transgresser sur un fait historique avéré. Qu'est-ce que vous en dites, Philippe Bourdin ?
Je voudrais revenir un instant sur la représentation du roi. Il n'est pas représenté sur scène pendant la Révolution, Louis XVI. Le roi n'est pas de nature à rejoindre le commun des mortels, d'une certaine manière. C'est vrai aussi dans la caricature. Si vous regardez la caricature, bien sûr, on le figure en roi cochon avec un corps de cochon. Mais il garde sa figure, ses traits de Louis XVI. Et finalement, les pièces qui portent sur Louis XVI, on les trouve à partir de 1795. On n'est absolument pas sûr qu'elles aient été jouées. Elles ont été écrites sous forme de panégyriques, exactement comme les royalistes vivaient, bien entendu, dans le regret de ce roi, qu'ils avaient pu éventuellement vertement critiquer, d'ailleurs, les années avant son exécution. Le roi Louis XVI, on le trouve représenté dans la pièce de Pommerat, par exemple. Mais comme un personnage totalement ridicule, totalement insipide. Pour le coup, il jure par rapport aux autres personnages de la pièce qui sont complexes, qui sont pétris de contradictions. Là, on a l'impression d'une grosse farce, que ce soit pour Louis XVI ou pour Marie-Antoinette. Alors même que les travaux récents qui ont été faits sur l'un et l'autre des personnages montrent une complexité réelle sur laquelle il serait peut-être intéressant aussi de s'interroger.
Dernière question, Baptiste Hamann. Je le disais, nos territoires, c'est un triptyque. Là, on a parlé de Condorcet dans le premier volet, Louise Michel dans le deuxième, et alors le troisième.
Alors, il va faire apparaître une figure qui n'est pas une figure, pour le coup, historique, mais qui est une figure fictive, qui est le grand-père de Hafiz. Hafiz, c'est dans la fratrie, c'est un enfant qui a été adopté et qui est d'origine algérienne. Et ce grand-père-là, on va découvrir qu'il s'est engagé auprès du FLN dans la construction d'une Algérie indépendante, et du coup que lui se voyait comme un révolutionnaire. Donc l'épisode révolutionnaire de l'histoire française sera la révolution algérienne.
Le poète a toujours raison, qui voit plus haut que l'horizon, et le futur est son royaume. Face à notre génération, je déclare avec Aragon, la femme est l'avenir de l'homme.
Merci beaucoup à tous les deux d'être passés nous voir dans une saison au théâtre. Je rappelle vos actualités respectives. Baptiste Hamann, on peut jusqu'au 25 novembre assister aux représentations de nos territoires, d'une prison l'autre, qui se joue au théâtre de la Bastille dans le cadre du Festival d'automne. Le spectacle sera repris du 5 au 9 décembre au Théâtre National de Bordeaux, le 11 décembre à Auch et du 13 au 15 décembre à Toulouse. Philippe Bourdin, vous êtes l'auteur de l'ouvrage « Aux origines du théâtre patriotique » paru aux éditions CNRS. Et enfin, je signale également que le spectacle de Joël Pomera, « Ça ira, fin de Louis » poursuit une très longue tournée jusqu'en avril 2018.
L'image d'Ève et de la porte, oh.
Vous pouvez, et même vous devriez, podcaster cette émission à la page Une saison au théâtre.
La femme est l'avenir de l'art.
Inès Duperron, Pierrick Consigny, Vanessa Nadjar, Joël Gaillot vous saluent, bientôt 16h. C'est le moment de retrouver Aurélie Luneau et son magazine De Cause à Effet.
Il a fallu des millénaires si nous sortons du Moyen-Âge, vos siècles d'infini servage pèsent encore lourd sur la terre. Le poète a toujours raison qui annonce la floraison d'autres amours en son royaume. Remet à l'endroit la chanson et déclare avec Aragon: la femme est l'avenir de l'homme. Il faudra réapprendre à vivre, semble écrire un nouveau livre, redécouvrir tous les possibles, chaque chose enfin partagée, tout dans le couple va changer d'une manière irréversible. Le poète a toujours raison qui voit plus haut que l'horizon. Et le futur est son royaume. Face aux autres générations, je déclare avec Aragon: la femme est l'avenir de l'homme.